Salut Blockbuster, j'ai trouvé votre émission sur Rayman, génial, ça m'a rappelé plein de super souvenirs, merci beaucoup.
J'adore cette émission sur Rayman, par contre il faut rétablir la vérité, Rayman ça a été quand même le responsable de pas mal de mes terreurs nocturnes et de mes peurs d'enfants, avec la grotte des Morets des rêves, je pense que beaucoup d'enfants ont été traumatisés, je pense à eux.
Salut, ben j'ai écouté l'épisode sur Rayman, bien, mais je suis étonné, pas un mot sur Tom Cruise, pas un mot sur le jeu d'acteur de Dustin Hoffman, déçu.
Ça y est, Terry Pratchett a enfin son blockbuster. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, j'étais parti pour laisser un très long message avec toutes les questions que je pouvais me poser sur le disque monde, mais finalement, je crois que je vais m'asseoir et je vais écouter.
Terry Pratchett, c'est le seul auteur dans ma vie où, quand il est mort, j'ai pleuré. J'avais l'impression d'avoir perdu un ami. Et je me rappelle les premiers livres du disque monde que j'ai lus. J'étais tellement en train de rigoler que je devais m'arrêter de lire. Donc voilà, je suis encore ému parce que Terry Pratchett me manque.
Frédéric, je compte sur toi et toute ton équipe. Non, parce que moi, mon mec, il n'arrête pas de me parler de ce livre dont on va parler aujourd'hui. Sauf que moi, j'y comprends rien. J'ai essayé de le lire, mais vraiment, je me suis perdue. C'était pas possible. Donc je compte sur vous. Merci. Merci de sauver mon couple. Allez, bonne émission.
To be or not to be, not to be.
C'est pas des livres. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ont dit en voyant ce que les jeunes ont acheté avec les fameux 300 euros du Pass Culture. Les mangas, c'est pas des livres. La science-fiction, c'est pas des livres. La fantasy, c'est pas des livres.
Mais alors, c'est quoi exactement un livre? Parce que moi, jusqu'à maintenant, je m'étais naïvement imaginé qu'un livre, c'était une couverture, des mots et des pages. Mais bon, c'est moi ça aussi. Je suis allé à l'école dans une zone d'éducation prioritaire, les manuels devaient pas être à jour. Donc un livre, c'est quoi? Un classique de la Pléiade? Parce que moi, à 16 ans, tu m'aurais filé 300 euros. Je revenais pas avec le rouge et le noir sous le bras. Hein. Déjà, je revenais pas avec un livre. Mon Pass Culture à moi, il aurait eu des lacets et un logo Nike sur le côté, hein, c'est sûr. Et c'est bizarre de donner de l'argent à des jeunes et de déplorer qu'ils le dépensent pour acheter quoi? Des trucs qui plaisent aux jeunes. Moi, si j'autorise mon fils à aller au McDo, je vais pas me rouler par terre parce qu'il a pas pris une salade. Et puis voir quelqu'un acheter un manga ne signifie pas forcément qu'il ne lit pas de romans. Quand au supermarché, je vois quelqu'un acheter des betteraves, je me dis pas de suite que je suis cerné par des végétariens. Simplement, il existe sur cette terre ce qu'on appelle des inquisiteurs culturels.
Ceci n'est pas un livre, ceci n'est pas du cinéma, ceci n'est pas une tenue décente.
Ils savent tous que le monde n'est pas, par contre ils n'ont toujours pas appris que rabaisser les autres n'a jamais rendu quiconque plus grand.
France Inter, Blockbuster,
juste ici ça va.
Frédéric Siglist.
Hello, I'm Terry Pratchett and I write books.
Lorsque l'on pense littérature, fantasy et Angleterre, on pense évidemment à Harry Potter, le petit magicien à lunettes écrit par J.K. Rowling. Pourtant, depuis des années, une autre œuvre est révérée par des millions de lecteurs sur la planète, le disque monde de Terry Pratchett. Auteur prolifique, à l'imagination fertile et à l'humour ravageur, Terry Pratchett a créé un univers d'une richesse et d'un iconoclasme difficile à résumer. Pour tenter justement de mieux comprendre ce faiseur de best-sellers, j'ai à mes côtés Laure, bonjour.
Bonjour.
Alias L'Enluminé.
C'est ça.
Et vous êtes booktubeuse et streameuse.
C'est ça.
Avec nous également Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Alias Laird Fumble. Vous êtes auteur du blog Le Syndrome Quickson et libraire actuellement à la recherche d'une librairie.
Tout à fait.
Avec nous, on est ravis de la recevoir, Catherine Dufour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine de littérature fantastique et de science-fiction, et votre roman Danse avec les lutins vient de paraître en poche, un roman de fantasy avec des elfes, des lutins, des fées, des bourdons magiques et des métis aux gros nains. Un opus pour lequel vous avez reçu les prix Imaginal et Bob Moran en 2020.
Exactement, et dans ce livre on retrouve d'ailleurs des personnages de Terry Pratchett.
C'est un crossover.
Notamment Mémé Sireux du Temps et Nounou Hogg. C'était juste un clin d'œil pour tous ceux qui se sentent totalement orphelins depuis la mort de Terry Pratchett.
Ils sont nombreux à nous écouter, à mon avis. Ensemble, on va tenter de vous faire découvrir qui est Terry Pratchett, comment cet ancien responsable des relations publiques est devenu le deuxième auteur anglais le plus lu au monde. On va vous expliquer ce que sont le disque monde et les créatures qui l'habitent. On va tenter de définir ce qu'est la fantasy humoristique. Pendant une heure, bref, on va tout simplement tenter de vous donner l'envie de lire ou relire Terry Pratchett. Allez, comme on dit, noli timere messorem, que l'on pourrait traduire si on était vraiment très mauvais en latin par écoutez Blockbuster.
Drifting onwards through space, atop the shell of the great turtle are four giant elephants, upon whose broad shoulders rests the disc world.
Catherine Dufour, la première question qui s'impose, c'est qui est Terry Pratchett ?
Alors, Terence David John Pratchett, il est né le 28 avril 1948, c'est un Anglais pur jus. Hein. Il est né dans le Buckinghamshire, il a grandi dans le Somerset. Et il se décrit lui-même comme un élève indescriptible. Voilà, comme ça on ne va pas le décrire.
Ça tombe bien parce que c'est quelque chose de cohérent avec son œuvre en fait.
Exactement. Alors, il a fait son éducation surtout à la bibliothèque du coin. Il a beaucoup lu H.G. Wells et Arthur Conan Doyle. Il a fait des études en art, en anglais et en histoire. Il a publié sa première nouvelle, il avait 13 ans. Bon, alors c'était dans le magazine de son école. Mais sa première nouvelle publiée commercialement, il avait 15 ans. Ensuite, il est devenu journaliste. Et il a sorti son premier bouquin, Le peuple du tapis. Et ensuite, il s'est mis à la science-fiction. Il a publié La face obscure du soleil en 76 et Stratagème en 81. C'est des livres de science-fiction qui sont pas mal, qui sont d'ailleurs assez drôles. Il y a notamment des gens qui découvrent un tyrannosaure avec un implant dentaire, ce qui pose d'importantes questions paléontologiques.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait forcément un dinosaure dentiste.
Oui, voilà, c'était un peu louche. Et ensuite, il a travaillé, ça me fait beaucoup rire, comme chargé des relations publiques dans une centrale nucléaire. Donc on lui posait des questions sur est-ce qu'il n'y a pas une fuite ? Et là, il répondait, une fuite ? Quelle fuite ? Ah, cette fuite, that leak. Voilà, moi ça me faisait beaucoup rire, mais je suppose que les voisins, ça les faisait moins rire. Et il a continué à écrire, et le premier roman de la série du Disque Monde, qui est je crois la 8e couleur, arrêtez-moi si je me trompe, a été publié en 83 par Colin Smith. Et là, c'est un gros coup de chance, c'est qu'il a été mis en épisode sur la BBC. Et ça a été une explosion, et il a signé avec Golanx assez rapidement, et il a pu abandonner en fait son poste de journaliste ou de chargé de relations publiques en 87. Surtout, en fait, son premier grand succès, c'est le 4e livre du Disque Monde, et c'est Mortimer. En VO, c'est Morte.
Voilà, et vous, personnellement, vous avez découvert Terry Pratchett à quelle occasion ?
Je me souviens plus bien. Certainement, comme d'habitude, c'est une amie qui m'a donné un petit bouquin coloré en me disant « Écoute, lis ça !» Et ça a été absolument génial. Moi, j'ai commencé dans l'ordre. Hein. J'ai fait la 8e couleur, la 8e fille, le 8e sortilège, Mortimer et les autres. J'ai tout lu, j'ai tout relu. Pratchett, littéralement, je me suis roulée dedans. Je crois pas qu'il y ait de... J'ai dû garder un livre de Pratchett que je n'ai pas lu. Quand j'aime vraiment un auteur, j'en garde toujours un pour être sûr de pas être à court.
Benjamin, vous avez découvert Terry Pratchett à quel moment de votre vie ?
Alors moi, je devais avoir une dizaine d'années, un petit peu plus. Et en fait, c'est des amis de mes parents qui ont offert le 8e tome au Guet à mon frère. Et lui, il s'en foutait, il a essayé, il a pas aimé. Et par pur esprit de contradiction fraternelle, je me suis décidé à le lire pour montrer que moi, j'étais de bonne volonté.
Et l'enfant préféré, c'est à moi qu'il faut offrir des cadeaux.
C'est un peu ça, ouais. Et ça a été le doigt dans l'engrenage. Et derrière, bah, j'ai enchaîné. Puis... ça a été le bouquin de Pratchett par an, tous les ans, pendant des années, jusqu'à ce que je les ai tous et que je les relise et que je les relis encore. Et voilà.
Et qu'est-ce qui vous a séduit si jeune ?
La première fois, je dirais que ce qui m'a séduit, c'était le côté surprenant. J'avais jamais rien lu de pareil. C'est-à-dire que j'étais à une période de ma vie où pour moi, la fantasy, c'était que... des gros dragons, des guerriers en slip léopard, etc., etc. Et là, je me retrouvais avec un univers de fantasy hyper réaliste, des personnages très, très humains, et des dragons qui en n'étaient pas vraiment, ou qui étaient un peu surprenants, qui réagissaient à d'autres lois, qui fonctionnaient différemment, et rien que cet effet de surprise-là, et puis l'humour surtout. Enfin, c'est juste parce que, avant tout, Pratchett, c'est extraordinairement drôle.
Oui, et c'est drôle parce que les personnages restent quand même assez souvent très terre-à-terre. C'est-à-dire que ce qui semble pour nous de l'ordre du surnaturel, du fantastique, eux, c'est leur quotidien. Donc en fait, ils ont vraiment des considérations très, très pragmatiques. J'ai mal au dos, y a de ça.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est le tour de force de Pratchett dans le Disque Monde, c'est de créer une réalité autre et de s'y tenir. C'est-à-dire que malgré son ton très détaché dans la narration, il oublie jamais que les personnages qu'on découvre, eux, ne vivent rien d'extraordinaire. Enfin, ils vivent des choses extraordinaires, mais à leur échelle. Donc ça donne un degré de décalage dans le décalage qui rajoute encore une couche d'humour et de malice, et c'est ça qui est fort.
Laure, vous avez découvert Terry Pratchett jeune ou un peu plus tard ?
Non, moi j'ai découvert beaucoup plus tard, quand j'avais à peu près 20 ans. Et j'ai une relation assez intime avec Terry Pratchett parce que j'ai découvert...
Ah, vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler à la radio, mais... comme ça.
Il y a pas de souci. J'ai découvert Terry Pratchett à une période un peu sombre de ma vie. Et ça faisait très longtemps en fait que je lisais de la fantasy et ma cousine me parlait beaucoup de ce fameux Terry Pratchett. Et j'ai lu le premier tome, j'ai lu La huitième couleur. Et je pense que j'avais pas ri depuis des mois. Et là, j'ai ri, mais avec vraiment... beaucoup d'authenticité. Et après, je les ai enchaînés et je pense que c'était vraiment ma petite soupape de décompression. Et j'ai commencé à tous les enchaîner. Donc, j'ai ralenti. Moi, je ne les ai pas tous lus encore. Je m'en garde. J'essaye d'y aller tranquillement.
Vous en gardez un petit peu pour plus tard.
Voilà, j'essaye d'y aller plus doucement pour qu'il m'en reste toujours un petit peu. Mais effectivement, c'est vraiment comme retrouver des amis, en fait, de lire un roman de Terry Pratchett.
Catherine Dufour, quand j'ai préparé cette émission, et ça fait déjà plusieurs saisons de Blockbuster que les gens me réclament à corps et à cri une émission sur Terry Pratchett, j'ai remarqué qu'il y avait véritablement une communauté de gens qui ont une passion mais extrême pour Terry Pratchett et qui est contrebalancée par des gens qui sont totalement hermétiques. Comment on explique ça ?
Moi, je ne me l'explique pas. De toute façon, je ne peux pas m'expliquer qu'on n'adhère pas à Pratchett, même si je le constate quelquefois avec effroi et incompréhension. Parce que moi, c'est Pratchett qui a fait que j'ai écrit. Pendant longtemps, j'ai écrit sans être publié. Je me disais, est-ce que c'est vraiment justifié d'abattre des arbres pour faire de la pâte à papier, pour imprimer ce que j'ai dans la tête ?
Alors, rassurez-vous, Catherine, je connais des gens, ça les arrête pas.
Jusqu'au moment où j'ai lu Pratchett et j'ai tellement ri, j'ai trouvé ça non seulement très drôle, mais en plus très intelligent, que je me suis dit, mais voilà pourquoi je peux me faire imprimer, pour faire rire. Donc mon premier livre, Blanche-Neige et Lance-Missile, c'est du Pratchett-like. Je vais même écrire à Pratchett. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous plagier ? Alors j'ai regardé, c'est Plagiarize pour plager. May I plagiarize you ? Il m'a pas répondu. Donc sur la foi de l'adage suivant de mauvaise foi qui ne dit mot consent, j'ai écrit un Pratchett-like, deux Pratchett-like. Ça a été tout le cycle de Quand les dieux buvaient. Et on m'a tout dit à ce niveau. C'est du sous-Pratchett, oui, en effet. Oh, ben, il y a du sexe et de la drogue, eh ben, en effet. Et donc, ma conclusion, c'est qu'en effet, mes livres, c'est du sous-Pratchett, mais il y a du sexe et de la drogue, comparativement à Pratchett, qui lui reste pudique comme un Anglais. Mais Pratchett, c'est à la fois un univers extrêmement cohérent. Son but, c'est, contrairement à tous les autres qui essayent vraiment de mettre du merveilleux dans le quotidien, ça, c'est vraiment J.K. Rowling, hein. Vous allez le prenez sur un quai de gare, il y a un quai 9¾. Pratchett, c'est l'inverse. On a un monde tout plat qui voyage sur le dos de quatre éléphants qui eux-mêmes sont sur le dos d'une tortue qui nage dans l'espace. Le taux de probabilité de ce monde est extrêmement bas. C'est un monde totalement de fantaisie, c'est-à-dire que vous avez des mages, vous avez des dragons, vous avez des épées qui soliloquent, qui sombrement. Il y a tout ce qu'il faut. Et avec ce merveilleux, il fait du trivial. C'est-à-dire que les mages ont des problèmes de déclaration d'impôts, ils ont des problèmes de corps aux pieds. Et c'est ça la grande force de Pratchett. Et aussi, il a le sens de l'image, quoi. Moi, je me resserre en permanence des expressions de Pratchett. Quand il y a quelqu'un qui est un peu empoté, je dis « Oh, il trouverait pas son cul avec ses deux mains. » Pardonnez-moi l'expression. Voilà. Donc, Pratchett a... Et en plus, les idées développées par et dans Pratchett sont extrêmement creusées, extrêmement fouillées. Enfin, c'est pas uniquement de l'amusement. Dans Timbré, il explique comment on crée une monnaie. Dans Va-t'en-guerre, il décortique les mécanismes stupides qui amènent à des guerres qui sont toujours stupides. Donc moi, il me sert de tout, d'interjection, de réseautage, de muse, de fournisseur de locutions astucieuses. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Terry Pratchett. L'humour est-il soluble dans la Manche ? La preuve par Terry Pratchett. Voilà, donc je pourrais en parler pendant des heures. Donc en fait, je vais quand même laisser la parole à
mes collègues. On va continuer de parler de Pratchett, mais vous savez que la grande Tori Amos, chanteuse que j'adore, a interprété la chanson de la série Good Omens, une adaptation d'un livre de Terry Pratchett et Neil Gaiman, et il m'en fallait pas plus pour trouver un prétexte pour la réécouter avec un de ses tubes les plus connus, Crucify. Every finger in the room is pointing at me. I wanna spit in the faces, then I get afraid of what that could bring. Got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth.
figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, drive another nail in, just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. I crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart is sick of being, I said my heart is sick of being. Suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. I've been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my, drive another nail in, got enough guilt to stop my own religion. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. Crucify myself. Well, every day
C'était Tori Amos dans Blockbuster sur France Inter.
It started out as an antidote to fantasy.
Au départ, c'était un antidote à la fantasy. J'ai commencé au début des années 80, quand il y avait beaucoup trop de copies de Tolkien qui circulaient. Et j'ai pensé que les choses devaient s'animer un peu. J'ai donc commencé par parodier les auteurs existants, bons et mauvais. Et après quelques livres, j'ai découvert les joies de l'intrigue. Et sans y avoir jamais vraiment réfléchi, je me suis soudainement lancé dans l'écriture de ce qui doit être l'une des plus longues séries de fantasy jamais écrites. Du moins, la plus longue série de fantasy jamais écrite par une seule personne. En effet, si on compte les histoires dérivées, on doit atteindre les 35 tomes.
Benjamin, Terry Pratchett est le deuxième auteur anglais le plus lu au monde, je le disais dans l'édito, derrière J.K. Rowling. Et pourtant, on constate un relatif manque de notoriété chez nous. Comment on explique ça ?
Pour moi, il y a deux facteurs principaux, je dirais. D'abord, le fait qu'on a un gros problème avec l'imaginaire en France. Il y a une perception viciée, c'est ce que vous disiez dans l'édito, c'est pas un livre, etc. Et on a une perception très péjorative de la fantasy, de la science-fiction, qui font qu'on pense que c'est pas des bouquins intéressants. Ce qui est complètement faux, et Pratchett en est une preuve absolument merveilleuse.
Pourtant, il y a de beaux succès aussi.
Il y en a, mais ça reste des exceptions plutôt que la règle, parce que il faut qu'il y ait un soutien médiatique ou de l'intelligentsia, on va dire, pour que ça puisse se faire. Et l'autre truc qui fait que je pense que J.K. Rowling a elle traversé la Manche, c'est qu'elle l'a fait par la jeunesse. Et Terry Pratchett, malgré sa pudeur et sa capacité à dire les choses de façon assez subtile, raconte quand même des choses extrêmement sérieuses sous le couvert de l'humour, qui sont pas toujours forcément faciles à lire. Je veux dire, là, j'ai relu Vatanguerre il y a quelques jours. Ce qu'il dit sur la xénophobie, le racisme et les mécanismes proto-capitalistes qui amènent à la guerre, etc. Faut aussi être capable de les encaisser en se disant que ça fait partie de nous. Donc je pense qu'il y a ça, et puis il y a aussi le côté humour british, forcément, oui, qui est pas forcément hyper accessible. Il a un rythme très décousu, il a pas de chapitre dans ses romans, ce qui pour beaucoup est assez déroutant. Il adore les notes de bas de page qui viennent complètement casser le rythme et juste raconter une blague pour le principe de raconter une blague. Il y a énormément de spécificités pratchettiennes qui font que je pense qu'il y a une distance qui se crée, mais c'est... Je pense qu'il y a un côté, il faut s'habituer aussi et passer certains caps pour vraiment l'apprécier.
Catherine Dufour, vous me disiez en préparant l'émission que l'humour aussi était sûrement une des raisons qui expliquait pourquoi les gens, pourquoi le système en fait était un petit peu plus rétif à Terry Pratchett, parce que particulièrement en France, on avait un problème avec l'humour.
Oui, alors ça, moi, je me l'explique pas. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont fait une thèse là-dessus. Vous prenez quelqu'un comme Coluche, il a toujours été considéré comme un clown jusqu'au jour où il a fait Ciao Pantin, donc là il pleurait, donc là il a été pris au sérieux, on l'a considéré comme génial. Ça, je ne me l'explique absolument pas. C'est bizarroïde, ça doit être...
Mais tout le monde aime rire, mais les humoristes ne sont pas récompensés. Ils présentent les cérémonies, on les récompense.
On doit être un peu sinistre, nous, en France, quelque part. En tout cas, le milieu qui publie des livres. Pour revenir là sur la série, dont la musique dont vous avez parlé, là, de la
Good
série Good Omens, il faut vraiment voir cette série, elle est absolument géniale.
Avec David Tennant et je crois que c'est Michael Sheen.
Oui, alors c'est un ange et un démon, et ils prennent une cuite ensemble, puis à un moment ils disent, bon, on est ivre mort, il faut qu'on discute, donc ils se concentrent et ils remplissent les bouteilles. J'ai trouvé ça absolument génial. Et Gaiman, on lui a demandé, bah alors ça vous avez été content d'écrire avec Terry Pratchett. Et là, Gaiman a regardé l'intervieweur et a dit, imaginez, vous êtes chez vous, le téléphone sonne, vous décrochez le téléphone, et là, vous entendez quelqu'un vous dire, salut, c'est Michel-Ange, ça vous dit de peindre un plafond avec moi?
Mais en plus, là, c'est vraiment une fusion de talents qui est absolument phénoménale. Parce que Neil Gaiman est aussi l'auteur d'American Gods, un autre blockbuster dont on parlera bientôt.
Oui, je pense que Gaiman est plus connu en France que, notamment via Sandman, que Pratchett.
Oui, tout à fait. Ouais, et alors, on est vraiment dans le domaine de ce qu'on appelle la fantaisie humoristique. Laure, comment on pourrait définir ça pour quelqu'un qui n'a jamais lu Pratchett? La fantaisie humoristique.
La fantaisie humoristique, pour moi, c'est un univers complètement différent d'une autre, mais dans lequel l'humour reste présent, comme chez nous. Et où on peut parler de sujets très sérieux, mais de manière humoristique, en s'amusant, malgré tout.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus facilement, j'y réfléchissais, mais en bande dessinée. C'est-à-dire que par exemple, Troll de Troyes, Landfust, etc., des bandes dessinées très connues des publics jeunesse, mais même le donjon de...
Le Buck.
Voilà, je vous laisse le dire. Ou même la série Wakfu, issue du monde de Dofus, utilise même des stigmates très pratchettiens, c'est-à-dire que l'épée qui parle et qui soliloque et tout ça, ça a été repris tel quel dans Wakfu. Les habitués de Sire Tristepin savent de quoi je parle. Et c'est quelque chose, finalement, qui marche très très bien sur d'autres supports et des supports qui s'adressent à la jeunesse. Et étonnamment, on, dans la littérature, ça reste quelque chose, une sorte d'ovni.
Oui, il y a même dans Kaamelott.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, il y a une phrase de Kaamelott qui est dans un des romans de Terry Pratchett.
Laquelle?
Quand il dit en tapinois, ah oui, en faisant le tapin, c'est dans un des romans du cycle du Gay. Donc je ne sais pas si c'est volontaire ou pas.
Ah, mais en tout cas, on peut remercier Patrick Couton, du coup.
Oui, clairement,
le traducteur.
Et d'ailleurs, mais parlons-en maintenant, parce qu'il y a des jeux de mots, c'est truffé de jeux de mots, à traduire. Il faut être ceinture noire de souplesse.
Patrick Couton est probablement un des plus grands cadeaux qu'on ait pu avoir dans la littérature de l'imaginaire francophone, parce que le travail qu'il a battu sur chacun des tomes de Terry Pratchett est un travail de titan. Je sais que sur le Accro du Rock, notamment, qui est 16e tome qui parle de musique, Patrick Couton étant lui-même musicien et ayant une acquaintance à la musique, a traduit énormément de jeux de mots et a réussi à rendre tel quel des jeux de mots sur Def Leppard, par exemple, avec il y a toute une série d'un groupe musical complètement nul qui essaie de trouver des noms cool, etc. Et ils finissent par capturer un léopard sourd parce que ça fait cool. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça, et je pense que, pour en revenir au fait que la BD et l'audiovisuel avaient tendance à pouvoir rebondir sur la fantaisie humoristique, je pense qu'il y a un biais de reconnaissance commune qu'on n'a pas forcément avec Pratchett, dans le sens où, comme la fantaisie n'est pas forcément ultra populaire en France, retrouver les références que Pratchett peut caser dans ses bouquins sont pas forcément aussi faciles à retrouver en littérature qu'en audiovisuel, parce que une épée qui parle, c'est drôle visuellement, de base, mais... écrire une épée qui parle, si on n'a pas la référence de Stormbringer au départ et de oui. toutes les grandes séries de fantasy, il y a un truc qui coince, quoi. Donc le Kring de qui est une épée parlante de chez Pratchett est peut-être peut être potentiellement moins drôle si on n'a pas la blague, quoi.
Oui, de toute façon, Couton, il fait un travail de folie, parce qu'il faut adapter la langue, il faut adapter les jeux de mots, et puis il faut adapter aussi la culture, hein, le background culturel des Anglais, c'est pas le background culturel des Français. Donc il fait un travail énorme en amont de chaque traduction, ça il l'a bien expliqué. Et il se débrouille toujours, par exemple, dans Accro du Rock, justement, le héros, logiquement, c'est plutôt Elvis, et on n'arrête pas de faire remarquer, vous n'avez pas l'impression, he looks Elvis. Voilà, ce qui en anglais dit, il ressemble à un elfe, ou il ressemble à Elvis Presley. Et Couton a réussi à traduire ça par, il a l'air elfique, virgule, presque laid. Donc moi, j'ai mis 2-3 lectures à dire elfique, presque laid, d'accord. Mais il y en a qui n'ont pas encore compris. Je leur ai fait cette révélation, j'étais très fière de moi.
Mais vous pouvez, mais alors là, du coup, la spoiler, tout le monde le sait. Tout le monde va pouvoir briller en société en disant, oui, j'ai lu Terry Pratchett. Et vous avez ce jeu de mots qui passait relativement... C'est très très bien vu, c'est très bien vu. Et alors, on parle depuis le début du Disque Monde, donc Catherine, vous avez un petit peu expliqué ce que c'était, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus de cet univers qui est finalement le fantasme des platistes, oui. Dans le sens où c'est une terre toute plate, sur le dos d'une tortue qui vole dans l'espace, et tenue aux quatre coins, il n'y a pas de coin sur un disque, mais par des éléphants. Donc, c'est vrai, quand on balance ça comme ça, on se dit oui, ça paraît absurde, mais pourtant c'est la réalité de cet univers. Comment ça a pu germer dans son esprit?
Ah bah alors, ça j'y
étais
pas.
C'est la question, je me suis dit, mais...
Ça j'y étais pas, alors je n'en ai aucune idée. D'où est-ce que ça lui est venu? Je crois qu'il voulait en fait faire un monde... c'est probablement pour faire des blagues. Il y a eu un moment où il explique pourquoi est-ce que ça existe, pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi une tortue, pourquoi quatre éléphants. Et bien tout ça ne serait pas arrivé si la logique s'était pas attardée au bistrot. Voilà, je pense.
Parce qu'à un moment donné,
il a voulu la chose la plus absurde du monde.
C'est peut-être moi qui vois des références là où il y en avait pas, mais j'ai pensé au Mahabharata avec le barattage de la mer de lait, qui logiquement dans la religion hindoue, en fait le lait qui crée le monde s'est fait sur le dos d'une tortue et qui a servi de support pour créer tout l'univers. Donc je me suis demandé si c'était pas un rapport avec ça. Et vu que l'Inde a forcément un rapport historique assez fort avec l'Angleterre, je me suis dit, tiens, c'est peut-être sa relecture à lui du barattage de la mer de lait.
Mais peut-être, c'est peut-être le Mahabharata.
Voilà. Je lance des pistes, donc si jamais il y a des auditeurs qui peuvent confirmer ou infirmer, vous écrivez, dites, oui, je pense que tu dis des conneries, vous faites comme d'habitude. et puis voilà, il y a le numéro de répondeur. D'ailleurs, si vous voulez nous laisser un message, c'est 01 56 40 30 20 ou le Twitter de l'émission Blockbuster FI. Alors, question suivante. J'aimerais savoir combien de livres se déroulent dans l'univers du Disque Monde, et si quelqu'un, si un lecteur veut se lancer...
41, il a raté le 42, ce qui est désolant.
C'est pas vraiment de son fait.
Non, c'est pas de son fait. Paix à son âme, mais c'est voilà, il en a fait 41, mais il a pas fait que ça. Hein. Je recommande aussi, alors pour les plus jeunes, il y a quand même Johnny Maxwell, puis il y a les livres des gnomes. Et il y a ce que lui, bon, il y a le peuple du tapis qui est charmant comme tout. C'est des gens qui vivent dans un tapis, voilà, c'est tout. Mais ça se passe, c'est très compliqué. Et puis ce qu'il considère, les trois tomes de Nation. Lui, il considérait que c'était son chef-d'œuvre. Ça fait partie de ses derniers livres. Et donc, si vous avez envie de faire plaisir aux fantômes de Pratchett, lisez Nation et appréciez les trois tomes de Nation.
Eh bien voilà, j'espère que vous l'avez noté chez vous. Je me sens très bien avec vous, mais j'ai une envie pressante de musique. On écoute Nicolas Giraud et Joe Joa avec La vie est belle.
Thank you. La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Amis, vos tours attendez donc votre tour pour manger. Se régaler à niveau tour, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixé, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer.
C'était Nicolas Giraud et Jojoa, La vie est belle.
Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
Alors, Terry Pratchett n'est pas connu de tout le monde, mais Terry Pratchett n'est pas aimé par tout le monde. Car c'est surprenant, mais Terry Pratchett, il y a des gens, ils n'aiment pas.
Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est nul.
Non, pas terrible.
Zéro. C'est de la merde.
I think Discworld fails pretty drastically.
Je pense que le disque monde échoue assez drastiquement quand il s'agit de créer une histoire qui t'intéresse vraiment et des personnages dont tu te soucies assez pour vouloir savoir ce qu'il va leur arriver. Mais bien sûr, ce genre de choses s'arrête ici. Il n'y a pas vraiment cet effet boule de neige que vous voyez dans presque tous les livres du monde entier.
La tête n'est pas un point vital pour les héros. Ils sont tellement stupides, tellement idiots, ils ne pensent qu'à frapper. Ils ont même du mal à aligner deux mots.
C'est une combinaison entre c'était amusant mais un peu trop léger, et j'aurais voulu un peu plus de profondeur dans les personnages et dans l'histoire.
Le héros, le barbare en question, a un nom imprononçable, il s'appelle Urn, comme si c'était un espèce de grognement, et en plus de ça, il est accompagné d'une épée particulièrement stupide et désagréable et insupportable qui s'appelle Krieg, qui passe son temps à raconter sa vie, et puis ce sont tous des lâches quand même.
Je me sens si peu attaché au monde que quelqu'un peut venir tirer dans la tête de la tortue et je m'en fiche.
Un mauvais moment à penser.
Laure, quel est votre avis sur le soi-disant manque de consistance de l'univers de Pratchett ?
Alors peut-être effectivement que si on lit les tout premiers tomes, on a peut-être du mal à percevoir toute la profondeur parce que selon moi, il y a une très grande évolution entre les tout premiers tomes qu'il a écrits et les suivants, où il s'implique beaucoup plus, où en fait il donne beaucoup plus finalement un avis sur plein de sujets et qui sont d'actualité. Et je pense que si on lit effectivement que les deux premiers tomes, on voit beaucoup cette légèreté. Puis petit à petit, il instille énormément de profondeur. En fait, pour moi, Pratchett, c'est même du domaine de la punchline. C'est-à-dire que dans beaucoup de choses très très drôles, tout d'un coup, il va sortir une phrase qui va parler soit du féminisme, soit de la question du genre, soit de questions hyper actuelles et qui n'ont rien à voir avec juste l'humour. Et je pense qu'il faut peut-être venir les chercher, venir les comprendre, celles-là. Il faut les trouver, peut-être.
Oui, et puis il est aussi nécessaire d'avoir peut-être un second degré pour les percevoir aussi. Benjamin ?
Ouais, on entendait quand il parle de Run le Barbare, c'est un personnage qu'on voit littéralement dans le premier tome et qui disparaît complètement après, remplacé par Cohen le Barbare, qui est un personnage autrement plus intéressant. Pratchett, effectivement, il faut passer le cap des premiers tomes, voire même les squeezer directement quand on découvre. Je pense que les trois premiers tomes ont le défaut et comme il le disait lui-même dans l'interview qu'on entendait tout à l'heure, il y a un côté, il travaillait lui-même sur sa matière, et à partir du quatrième tome, et ensuite,
il a découvert l'intérêt d'avoir une intrigue un peu plus.
Ouais, et puis, enfin, je veux dire, si on parle du cycle du geek, qui est celui que pas mal de fans préfèrent, là, non, au niveau de la profondeur des personnages, on a quelque chose d'assez extraordinaire. On a des sujets qui sont traités. Un tome comme Pied d'argile, par exemple, ça parle de racisme systémique, ça parle de la question du genre, de la transidentité, de dynamique socio-économique sous le couvert d'humour. C'est une punchline par page. Pratchett, il a un talent pour distiller la sagesse, une espèce de sagesse. Moi, j'aime bien parler de sagesse espiègle en parlant de lui. C'est-à-dire qu'il est capable de dire quelque chose qui peut paraître très léger. Et puis en fait, on y réfléchit, et ça nous marque à vie après. Moi, il y a une phrase de Pratchett qui est sans doute une de mes préférées. Il dit « Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. »
Oui, ce qui s'est passé.
Ça ressemble qu'à une vanne. Et puis dès qu'on y réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'il y a un poids de vérité là-dedans qui est dingue.
Ah ben, il y a un style très proche justement de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les stand-uppers, sur les scènes un peu partout en France. Et c'est, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est particulièrement pertinent pour des gens qui manient et qui comprennent le second degré. Et puis en plus, il y a quelque chose d'assez particulier dans l'univers de Pratchett, c'est qu'il n'y a pas de héros à proprement parler, c'est-à-dire s'il y a des individus récurrents, mais il n'y a pas un personnage qui va évoluer de bout en bout, devenir de plus en plus fort, on n'est pas du tout dans le héros thaumaturge.
Alors oui et non, dans le sens où il y a des personnages récurrents et des, pour moi quand même, des figures héroïques, et il y a des évolutions de tome en tome. Mais dans l'ensemble du disque, je pense qu'on peut, des annales du disque, je pense qu'on peut parler plus de casting choral, effectivement. Si on revient sur le cycle du guet, par exemple, ils sont, je pense, 4 ou 5 héros à évoluer ensemble, même s'il a un don pour créer des personnages qui sont à la fois médiocres et profondément complexes. Si on parle de Colomb et Chicard, par exemple, dans le cycle du guet, qui sont, c'est un peu les Perceval et Caradoc, si vous voulez, du guet.
Mais justement, est-ce que vous avez un personnage préféré?
Vimer ou mes Messieurs du Temps, qui sont pour moi les deux personnages les plus profonds du disque. Vimer, parce que c'est la représentation du contrôle. C'est un commissaire, au départ capitaine du guet dans une police qui sert à rien, qui est la risée de la cité, qui il passe son temps à boire et en fait il finit par trouver un sens à sa vie, on va dire, et à partir de là il se relève, mais il combat en permanence la bête intérieure, ce qu'il appelle la bête, qui est une espèce de, une version sombre de lui-même, et il passe son temps à se battre contre elle-même, à essayer d'être juste, à représenter la loi, même à son corps défendant. Et de l'autre côté, on a même Messire du Temps, qui est la sorcière la plus puissante de tous les temps, et qui sait qu'elle est si puissante qu'elle en devient dangereuse, et donc elle est en permanence, elle aussi, en contrôle sur elle-même. Et enfin, c'est des personnages qui sont d'une puissance évocatrice incroyable, d'une profondeur dingue, parce qu'ils sont à la fois, il y a un peu ce côté thaumaturge, mais en même temps, ils sont rattrapés par le quotidien et le fait de devoir se contenir, et enfin, ils sont extraordinaires, ces personnages.
Catherine Dufour, vous avez un personnage favori ?
Oh oui, moi c'est Nounou Og, hein, c'est la vieille sorcière bonne vivante qui passe son existence à sucer sa dent unique en chantant le chant du hérisson, qui n'est pas à mettre entre toutes les oreilles et qui a, Dixit elle-même, l'esprit tellement ouvert qu'elle pourrait se le sortir par les oreilles et se le nouer sous le menton. Elle est absolument géniale, mais c'est vrai que les héros de Pratchett sont des héros renfrognés. On a aimé Ciri du Temps qui pourrait être la sorcière la plus puissante, sauf qu'elle veut pas. On a Carotte qui pourrait être le roi mais il veut pas non plus. Donc c'est pour ça qu'il y avait tellement de héros princeps dans Pratchett, c'est parce qu'ils veulent pas.
Laure ?
Moi, je vais rejoindre Mémé Sire du Temps, parce que Mémé Sire du Temps, c'est quand même la sorcière effectivement la plus puissante et qui choisit de ne pas être la sorcière la plus puissante. En plus, elle a souvent des questionnements excessivement intéressants sur sa propre fin, sur la mort. Et puis bon, elle incarne pour
moi... Un questionnement qui interpellait aussi Pratchett dans sa vie.
Tout à fait, exactement.
Il s'est assez souvent exprimé sur le suicide assisté. Il avait conscience aussi de sa propre mortalité de manière très très aiguë.
Oui, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup d'ailleurs le personnage de la mort, qui est un personnage, je trouve, excessivement touchant.
Il s'exprime toujours en capital.
Voilà, c'est ça. Et il est tellement touchant et tellement attachant parce que c'est un personnage, c'est une allégorie de quelque chose que tout le monde redoute. Et en même temps, lui, bah, il a juste envie d'être copain avec les humains et de faire des trucs d'humains et d'essayer de prendre des vacances une fois de temps en temps, mais il ne peut pas. Et Mémé Sire du Temps, je pense que pour moi, elle incarne tellement tout ce que j'aime dans le féminisme que forcément, c'est clairement pour moi la plus parfaite du disque monde. Là-dedans.
Et il y a une dimension de satire sociale, mais aussi de parodie de l'univers d'autres auteurs de fantasy. On peut retrouver des citations autour de Lovecraft, de Robert E. Howard avec le personnage de Conan le Barbare. Il y a évidemment Tolkien. Et on retrouve aussi Shakespeare, le communisme. Il y a un mélange de genres qui est énorme chez Pratchett. Est-ce que d'une certaine manière, dans cet univers de la fantasy, on peut parler de mise en abîme ou de méta, comme d'œuvre méta, comme on peut le voir pour certains films aujourd'hui?
Ouais, il y a une dimension méta. Après, il a, je pense, perdu la dimension parodique assez vite. La huitième couleur, huitième sortilège et la huitième fille sont très parodiques. Surtout les deux premiers reprennent vraiment des tropes de... Bah, je veux dire, Ron le Barbare est une version qui se moque de Conan, pardon. Mais derrière, on voit justement avec le remplacement par la figure de Cohen, Cohen qui est donc un barbare qui est octogénaire, qui n'a plus de dents mais qui s'est fait un dentier en diamant, qui l'a récupéré sur un troll, qui est obligé de se faire des bains de bouche et des massages dans le dos pour pouvoir continuer à combattre. Alors, en fait, il passe de la parodie à la satire et du coup la méta devient différente, c'est-à-dire qu'il pousse les logiques des tropes classiques de la fantasy jusque dans le retranchement, et c'est aussi là qu'il va trouver de l'humour. Dans le sens, bah voilà, Cohen le Barbare, c'est imaginons un guerrier qui est tellement fort, tellement puissant, tellement intelligent qu'il ne peut littéralement pas mourir, bah il va se retrouver octogénaire. Mais comme il a jamais rien fait d'autre de sa vie, bah faut bien qu'il continue jusqu'à ce qu'il en puisse plus. Et du coup, bah voilà, il pousse ça, et oui. C'est régulièrement ça en fait qui, donc la dimension méta, elle vient d'abord par la parodie et ensuite il passe plus sur le côté satirique et l'idée de pousser la logique à fond.
Alors avant d'attaquer la dernière partie de notre émission, je vous propose d'écouter les Sparks avec So Merry Start. One, two.
It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
Offers are here and there, a little vain, a little
C'était Somewhere We Start des Sparks.
Vous êtes bien sur France Inter.
Blockbuster.
C'est une super émission, on dit plein d'horreurs avec Frédéric Sigrist.
L'univers du disque monde a été adapté sous plusieurs formes, à la télévision, au cinéma, en jeu de rôle et même en jeu vidéo. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une de ces adaptations qui a retenu votre attention ?
Personnellement, j'aime beaucoup les adaptations de la BBC, donc la BBC anglaise, pas la BBC américaine, donc. Puisque, ouais, ils ont fait.
Père Porcher.
Ils ont fait le Père Porcher. Enfin, le Père Porcher d'abord. Ensuite, la 8e couleur, 8e sortilège, puis Timbré. Et je pense Timbré est mon adaptation préférée parce que c'est celle qui prend le plus à bras le corps le concept de base. Le casting est assez dingue. On retrouve Charles Dance, Claire Foy qui est dans un de ses premiers gros rôles.
Charles Dance, pour les auditeurs, c'est le père de Tyrion et Tywin. C'est Tywin Lannister dans Game of Thrones.
Voilà, qui joue le patricien Vétérini dedans à la perfection. La bonne dose de cynisme et de sournoiserie qui est très très cool, et l'adaptation est très drôle, elle est très rythmée, elle est très bien filmée, et vraiment, vraiment j'aime beaucoup.
Le film Discworld à voir ou dispensable?
C'est pour les aficionados, on va dire.
C'est ça.
Alors que le Père Porcher, le film peut se voir, plus pour enfants peut-être.
D'accord.
Pour regarder ça avec mes fils. J'ai eu le temps de compter toutes les dents, il y en a 42 millions, je peux vous le dire.
Moi, j'ai vu aucune adaptation parce que j'ai très très peur d'être déçue, donc du coup, je préfère faire attention à ça. Par contre, je sais qu'il y a un jeu vidéo, et ça, c'est un jeu auquel j'aimerais bien jouer parce que l'adaptation est un peu différente, on va dire. Donc ça me tenterait beaucoup plus.
Et j'imagine que si les auditeurs ont écouté l'émission jusqu'au bout, ils doivent forcément être intrigués par cet auteur. Quel est le roman de Terry Pratchett le mieux, je dirais, celui qui permet de rentrer le plus facilement dans l'univers et le plus abordable?
L'arc parfait, c'est le premier qui a eu du succès, c'est Mortimer, morte. Voilà, c'est un petit jeune homme, pas dégourdi, qui à la fin va finir très dégourdi, donc c'est vraiment parfait. Mais le faucheur, voilà, ou alors Noblio et sorcière, ou bien Pied d'argile. Et allez-y, vous.
Moi aussi, je trouve que Mortimer c'est un bon début, ou alors Trois sorcières, qui est un très très beau, une belle entrée en matière pour découvrir mes messieurs du temps et Nounou. Mais Mortimer, effectivement, c'est un qui m'a le plus plu. Et le faucheur est très très beau, mais peut-être beaucoup plus mélancolique, j'ai trouvé.
Oui, c'est vrai.
Donc un peu peut-être moins d'humour si on cherche vraiment quelque chose de très mordant, mais sublime et très très touchant.
Et si vous aimez bien Elroy, plutôt commencez par Hoguet à ce moment-là.
Oui, Hoguet.
C'est ça. Mais de toute façon, on en revient régulièrement à ça. C'est Mortimer, Trois sorcières ou Hoguet qui sont les trois meilleures portes d'entrée. En fait, Mortimer, c'est un roman d'initiation. Trois sorcières, c'est, on va dire, parodie de roman pastoral avec un peu de Shakespeare dedans. Et Hoguet, c'est un polar, très basiquement.
Oui, parce que ça on a peut-être pas encore assez insisté dessus, mais c'est vrai que dans le disque monde, c'est l'univers, mais au sein de cet univers, il peut aussi bien y avoir des histoires d'amour, des enquêtes policières.
À chaque fois, il y a une intrigue.
C'est un univers, mais dans cet univers, il y a des multiples autres univers et genres.
Ça fonctionne par cycle, c'est ça qui est sympa. C'est pour découvrir, c'est souvent bien de prendre un cycle, de découvrir les tomes dedans, et puis éventuellement après d'aller picorer dans d'autres cycles, ou de tout lire par ordre chronologique de parution, qui peut aussi le faire, parce qu'il y a des ponts thématiques entre chaque tome. C'est assez surprenant, par exemple, de lire Noblio et Sorcière à la suite de... avant Les Petits Dieux, qui est un roman indépendant.
Non, commencez par Les Petits Dieux, franchement. Désolé, je n'arrive pas à me désider.
Les Petits Dieux, ce qui est bien, c'est que c'est un tome complètement indépendant qui parle de la religion avec
une acuité, non, c'est fabuleux.
Ce qui est absolument phénoménal. Et mais c'est assez drôle de voir, ouais, qu'il y a toute une évolution thématique et des suites. Il y a des ponts narratifs et thématiques entre les tomes, et c'est assez sympa à suivre aussi chronologiquement.
Et c'était un auteur extrêmement prolifique. Il lui arrivait quand même de sortir des fois deux livres par an. Quand on pense à notamment l'auteur de Game of Thrones en ce moment, qui
a un peu de mal,
qui a un peu coincé. Voilà, il aurait peut-être pas fallu qu'il ait une transfusion de Terry Pratchett pour avancer plus vite. Mais d'où vient cette gourmandise
400 mots par jour.
C'est phénoménal.
Voilà, il écrivait 400 mots par jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, et au bout d'un moment, ça vous fait un livre tous les 6 mois.
Et alors vous, en tant qu'autrice, est-ce que vous vous dites des fois « Oh, mais Terry Pratchett, il serait beaucoup plus productif que moi, là, aujourd'hui. Il faut que je sois un petit peu Terry Pratchett ou... ?»
Ah oui, oui, non, mais moi, je fais pareil que lui, sauf que sur les 400 bons, j'en élimine 300 parce qu'ils sont mauvais. Donc, du coup, je sors un livre plutôt tous les deux ans. Mais oui, oui, moi, j'ai copié Terry Pratchett. Non, mais je vous le dis, c'est mon mentor à moi.
Et comment vous avez vécu l'annonce de sa disparition ? Parce que quand on a une telle richesse et surtout une telle production, quand on apprend que le robinet est fermé et qu'on a développé un amour pour l'univers, pour les personnages, il y a forcément quelque chose de soi qui s'en va avec.
C'était une catastrophe personnelle. Oui,
oui, bah pareil, un peu comme disait tout à l'heure quelqu'un par message, je pense que c'est un des rares pour qui j'ai pleuré quand il est mort, parce que vraiment j'étais triste de sa mort. Et j'ai adoré la manière dont ils l'ont annoncé sur Twitter, puisque c'est le personnage de la mort qui a annoncé la mort de Terry Pratchett. Je trouvais ça sublime et parfaitement lui. Et c'est là que j'ai ralenti ma lecture. Je me suis dit, il n'y en aura plus. Faut que je m'en garde.
C'était Sir Pratchett, At Last We Walk Together.
Oui, c'est ça.
Oui, parce qu'il a été anobli.
Oui, oui, tout à fait.
C'est, il avait dit, d'ailleurs, il me manque plus que le cheval.
Oui, il a dit qu'il allait s'acheter une épée et un cheval, et d'ailleurs, il a forgé l'épée. Mais le cheval, je ne sais pas.
Benjamin ?
Personnellement, j'étais préparé, parce que, en fait, j'étais pendant très longtemps, on va dire, quasi monomaniaque des œuvres de Pratchett, donc je collectionnais tout ce que je pouvais, et donc, du coup, je suivais son actualité au jour le jour, et comme il a eu ce militantisme autour de la question du suicide assisté, du droit à mourir dans la dignité, tel qu'il le disait lui, et son combat contre la maladie d'Alzheimer, etc., il y a eu un moment où j'ai intégré avant que ça arrive, et quand c'est arrivé, je l'ai un peu accueilli comme la mort, justement, comme un vieil ami qui, voilà, c'était le moment. Il nous a légué énormément de belles choses, voilà, c'était attendu, donc ça a fait mal, évidemment. Et j'y repense encore régulièrement, mais voilà, c'était...
Laure, Benjamin, Catherine Dufour, je vous remercie d'avoir été avec nous pour évoquer Sir Terry Pratchett. C'est la fin de cette émission. J'aimerais remercier également Céline Hila qui réalise cette émission. Elle a été préparée par Manon Rax et Cyril Marchand avec l'aide de notre stagiaire réalisation Véronique Ameyer. Et aujourd'hui à la technique, Michel Bézikian, Jérémy Kaufmann et Raphaël Rousseau au mixage. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20. Allez-y, continuez votre bataille sur le répondeur, parce que tous les jours il y a des gens qui essaient d'être le plus présent possible sur le répondeur, voilà, on a des bagarres comme ça, les gens s'occupent hein. Ou vous pouvez parler avec moi sur le Twitter de l'émission avec le hashtag BlockbusterEFI.
Dans le disque monde, j'aime les romances et les procédures policières et les histoires de meurtre, parce que dans ce monde tout devient fantasy.
Demain dans Blockbuster, quatre célibataires que la société qualifierait à tort de différents. Quatre scientifiques qui tentent de décrypter les grands mystères de l'univers. Les mondes parallèles existent-ils ? Peut-on se pendre à la théorie des cordes ? Le chat de Schrödinger veut-il entrer et sortir à la fois ? Comment pécho Penny ? Autant de réponses qui se trouvent dans Big Bang Theory.
France Inter.